Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue pour ce 77e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Hugo Bentz, le cofondateur de Kimono, une société pas comme les autres qui design la culture des entreprises. Originaire de Bordeaux, il est également à l'origine de 5 autres business qui génèrent plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, la piscine, kermesse, capsule, araok ou encore le plongeoir. Véritable passionné de textile, il est devenu expert de ce marché et aide désormais les entrepreneurs, notamment dans leurs problématiques d'exécution, de vente ou encore d'organisation et de gestion de leur temps. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir l'histoire d'Hugo, sa rencontre avec Olivier Ramel, son associé, et ses débuts dans l'entrepreneuriat, sa rencontre importante avec Christophe Charles, cofondateur de Cdiscount et ses premiers pas dans le textile, la genèse de tous ses projets et les clés de son process de création, ou encore comment a-t-il fait pour cofonder 6 sociétés B2B à plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Avant de vous laisser avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, c'est très important, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, @serialentrepreneur. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à très vite. Comment ça va, Hugo ?
Bah écoute, nickel. Et toi ? Merci beaucoup pour l'invitation, François.
Très très bien. Voilà, très content de t'avoir dans le podcast. Moi, je commence toujours les épisodes sur le parcours avant d'entreprendre. Puis on va démarrer un peu plus tôt que ce parcours avant d'entreprendre. C'est sur ton enfance et ton adolescence. C'était qui le Hugo à cette époque ?
Donc j'ai 34 ans et du coup, moi, je suis né à Paris. Toute ma famille de base est parisienne et vit d'ailleurs pour la plupart encore là-bas. Après, quand même, mes parents ont voulu déménager. Donc, du coup, enfance, adolescence et jusqu'au bac, je suis dans la Marne et même à la campagne dans la Marne, donc en Champagne-Ardenne, à 1h30 de Paris. Et du coup, après un parcours assez classique, hein, collège, lycée, plutôt bon élève. Donc, du coup, de ce côté-là, j'avais pas vraiment de problème. Et donc, du coup, après le parcours assez classique, baccalauréat, éco, une prépa, du coup, à Reims pendant 2 ans. Et c'est là que je m'expatrie à Bordeaux en 2008 pour aller en école de commerce à BEM, qui s'appelle aujourd'hui KEDGE. Et du coup, depuis 2008, je n'ai jamais quitté Bordeaux.
Qu'est-ce que tu retiens de ces études ? Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a permis justement de trouver ta voie par la suite ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, bah, après, c'est ça que du coup, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai la particularité d'avoir redoublé ma première année. Parce que du coup, je suis arrivé en école de commerce. On peut dire que j'ai un peu pété un câble. Hein. J'ai beaucoup fait la fête. J'étais très porté sur les copains, les assos, liste BDE, etc. Donc, ça m'a un peu plus passionné que les cours, on va dire. Mais non, du coup, moi, je garde un excellent souvenir de mon école de commerce. Hein, bah, déjà parce que du coup, ça m'a permis de découvrir une ville comme Bordeaux. Donc moi qui venais de la campagne dans le nord-est, je découvre une grande ville dans le sud-ouest. L'école de commerce, hein, vraiment colonie de vacances géante. Je me fais énormément de potes et pour le coup, pas des potes artificiels puisque du coup, aujourd'hui, on est toujours encore très soudés avec mon groupe de 15 qu'on a formé en école. Hein, tu vois, on est tous parrains les uns les autres des enfants. On se revoit très régulièrement depuis 10 ans pour les anniversaires, les EVG, les mariages, les 30 ans. Maintenant, on va rentrer dans les gros anniversaires des 35 ans. Tous les ans avec mes potes, on se refait encore une capitale où on se met à 15 dans une belle baraque et on fait la fête pendant 2 jours. Bah, plus qu'accessoirement, j'ai également rencontré ma femme en école de commerce avec qui aujourd'hui je me suis marié, j'ai eu un enfant et j'ai également monté une boîte avec elle. Je me suis également associé sur l'une de mes boîtes avec l'un de mes meilleurs potes de promo, Sébastien. Pour la petite histoire, Sébastien qui est le frère d'Olivier, mon associé de Kimono.
Le Kimono.
Donc encore une fois, tu vois, toutes les bonnes choses qui m'arrivent aujourd'hui, leçon grâce à l'école de commerce, malgré le fait que j'ai redoublé ma première année. Et puis également que je n'ai pas eu mon diplôme, puisque du coup, j'ai entrepris avant la fin des études. Et ça m'a tellement passionné que je ne suis jamais retourné à l'école. J'ai pas rendu mon mémoire, etc. Bon, à l'époque, c'était quand même, une belle connerie. Aujourd'hui, je le prends comme un asset différenciant par rapport aux autres. Mais donc, du coup, pour répondre à ta question, très bon souvenir de l'école de commerce, Catch Business School, je vous embrasse.
Donc un premier point d'étape très important, très précieux pour toi, puisque effectivement tout ce Exactement. Que tu m'as raconté, c'est clair que c'est le point parfait pour démarrer finalement. Est-ce que tu peux Exactement. Me parler de ta première aventure entrepreneuriale et comment ça a démarré? Je crois que ça s'appelle La Piscine. Et c'est tes débuts dans le textile, on va dire.
C'est ça. Bon, en fait, pour revenir même un petit peu plus en arrière, et encore une fois, ça démarre de l'école de commerce. Bah, du coup, comme je redouble, je vais voir mon banquier pour lui demander s'il peut faire une rallonge de 10 000 balles pour pouvoir payer les années qui me restent, puisque la première année, je l'avais fait du coup pour du beurre. Bien sûr, il refuse, hein, et je le comprends tout à fait, hein, c'est erreur de ma part, c'est pas la banque d'éponger mes conneries, grosso modo. Donc là, en fait, j'ai plus qu'un seul choix pour pouvoir poursuivre les études, c'est trouver une boîte qui me prend en apprentissage pour pouvoir du coup payer les deux dernières années du coup de master. Miracle, je trouve une boîte, et donc du coup une boîte qui s'avère faire notamment du textile personnalisé en ligne, directement en B2C, hein, ça s'appelait mydesign.com. C'était une sorte, en gros, de spreadshirt à la française, du moins qui essayait de pouvoir aller un jour peut-être concurrencer spreadshirt. Et là, en fait, énorme coup de bol. Cette boîte, au bout d'un mois où j'étais là, elle est rachetée par un ponte du e-commerce français et bordelais, du coup, en la personne de Christophe Charles, qui était le cofondateur de Cdiscount. Faut remettre dans son contexte, à l'époque, on est en 2010, Cdiscount, c'est le premier e-commerçant à dépasser le milliard de chiffre d'affaires. Tu vois, VP était encore pas très loin derrière, mais était encore derrière. Amazon en France n'était pas du tout encore à ce niveau-là. Cdiscount, c'était vraiment des précurseurs sur beaucoup de choses. Tu vois, à l'époque, c'est les premiers, par exemple, à vendre du pinard en ligne. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement normal. Il y a 12 ans, c'était une révolution. Donc, du coup, énorme coup de bol. J'ai 22 ans. Je suis quand même du coup, bien branleur sur les bords. Et d'un coup, en fait, mon boss, qui devient mon mentor, c'est Christophe Charles, l'un des plus beaux entrepreneurs du e-commerce français et surtout le plus grand à Bordeaux, qui n'est pas du tout encore une place de la Startup Nation à l'époque, quoi. Donc, voilà, et c'est comme ça que je mets un pied dans le textile et du coup dans l'entrepreneuriat, puisque du coup, à l'époque, du coup, je suis en apprentissage pendant 2 ans là-bas. Et en fait, ma mission devient de monter des boîtes pour Christophe Charles à l'intérieur du groupe qu'il était en train de créer. Donc, encore une fois, opportunité de malade. Tu as 22 ans et ton job, c'est de monter des boîtes from scratch en total bootstrap pour un mec aussi lourd que Christophe. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis fait la main. Bah, du coup, sans prendre de risque, hein, puisque c'était pas mon argent. Mais du coup, c'est comme ça que pendant 5 ans, je suis resté dans ce groupe-là. J'ai monté 3 boîtes pour eux. Et du coup, en 2015, c'est là que je décide du coup de me lancer par moi-même en lançant une boîte qui s'appelle La Piscine. Et le métier de La Piscine, en fait, c'était toujours la même chose, hein, dans le milieu du textile personnalisé. On monte notre propre usine. Donc, par contre, voilà, au lieu d'être full sous-traitance, on monte notre appareil productif. On investit quand même 50 000 euros avec mes deux associés. On met un peu plus de 15 000 euros chacun pour acheter les premières machines, prendre le premier entrepôt, acheter nos premiers stocks. Et en fait, démarrer un métier du coup full revendeur, full B2B pour faire de l'impression textile pour les entreprises. Et c'est comme ça que du coup, j'ai démarré dans l'entrepreneuriat en 2015.
Super intéressant. Donc, deuxième point d'étape super important avec cette rencontre et cette première expérience effectivement qui va te permettre de gagner une certaine expertise dans le textile personnalisé et qui du coup te permet de créer par la suite La Piscine. Tu crées quasiment dans le même moment Le Plongeoir. Alors c'est quoi ce délire avec La Piscine, Le Plongeoir?
Là, le Plongeoir, en fait, tout simplement, en fait, c'est du coup au même moment avec ma femme, on a des idées, notamment en fait on veut à l'époque monter une marque de montres et en fait tout simplement du coup on monte une structure pour pouvoir légaliser, structurer tout ça. Et c'est vrai que du coup, bon, il faut donner un nom à la SAS. Et comme je venais de monter La Piscine, bah, vas-y, on dit, On monte le plongeoir et tu vois, on était même resté dans le trip de la flotte puisque la marque de montre s'appelle Mentalo et s'appelle d'ailleurs toujours Mentalo puisqu'elle existe toujours, cool. cette marque. Et aujourd'hui, elle marche très bien avec une très, très bonne rentabilité, des très bonnes marges, mais pour des prix très décents pour les clients. Et tu vois, c'est une marque aujourd'hui que ma femme gère seule, mais du coup, qui marche quasi toute seule, quoi, de manière organique.
Ok, super. Pour revenir un peu à la piscine, est-ce que tu veux me parler un peu de ton process de création de cette première boîte ? Effectivement, tu as investi dans un parc de 2000 m² avec des machines d'impression textile. Comment est-ce que ça s'est passé, ces premiers clients, ces premières ventes, tout ce process-là, tu vois ?
Yes, bah, en fait, déjà, en fait, le processus, si on veut revenir même un petit peu en arrière, en fait, la première étape, c'est que moi, j'arrive, en fait, on va dire à la fin d'une aventure quand je suis, alors, le groupe s'appelait Image Corp et du coup, mydesign.com était devenu une marque du groupe. J'arrive à la fin, tu vois, à la fin, je suis devenu même directeur commercial du groupe. Il y a entre 50 et 70 personnes dans le groupe. Ça fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça roule bien. On a Carrefour qui rentre dans le capital. Enfin, ça commence à devenir quelque chose de gros. Et du coup, moi, avec mon profil un peu starter, bootstrapper, etc., je commence à plus trop m'y retrouver. Puis surtout, je me dis que maintenant, c'est le bon moment. Je suis resté 5 ans. C'était déjà plus que ce que je ne pensais. Je viens de me marier. Je viens d'acheter ma maison. Ma femme est enceinte. Je me dis, c'est bon, là. Tu vois, il y a un milestone à passer. Et c'est le moment, du coup, de se lancer. Donc, par contre, j'avais la conviction que je ne me lancerais pas tout seul. Donc là, je suis plutôt à ce moment-là dans la recherche d'associés. Donc du coup, je fais ma petite liste et je vais un peu sonder toutes ces personnes-là qui, pour moi, me paraissent être les meilleurs partenaires pour me lancer dans cette nouvelle aventure. En fait, l'idée, c'est que là où je prenais pas de risque, c'est que j'allais faire la même chose. C'est-à-dire que j'avais une expertise, c'était de savoir acheter du textile, le faire personnaliser et le vendre en B2B. La partie usine, je maîtrisais puisque du coup, c'est un métier que je connaissais très bien puisque on l'avait également internalisé à l'époque chez Image Corp. Donc du coup, au niveau du métier, au niveau commercial, je me faisais pas trop de soucis. L'idée, c'était de trouver le meilleur partenaire pour que ça aille très vite et fort tout de suite. Parce que j'avais notre boss, c'était Christophe Charles. Donc, on avait un gros ADN Cdiscount. Donc, développement commercial, prise de part de marché, très fort, très vite. J'avoue, la marge, la renta, un peu en option. J'étais encore vachement comme ça à l'époque, en 2015, quand je me lance. Donc du coup, bah en fait, c'est très simple. J'ai pris mon meilleur client de l'époque et je lui ai demandé s'il voulait se lancer avec moi. Du coup, sa marque deviendrait le premier client de la boîte. Et du coup, en fait, on savait qu'on démarrait, on démarrait pas de zéro et qu'on démarrait déjà avec une belle assise qui nous donnerait le temps et le confort de pouvoir développer tout de suite ayant un appareil productif et des salariés dès le day one, quoi. Donc ça, c'était la première étape, trouver les bons associés. Et ensuite, bah, la seconde étape, ça a été d'aller chercher les clients. Et encore une fois, moi, ça faisait 5 ans que j'étais sur ce marché, donc j'avais un gros réseau. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait le tour de tout mon réseau, de tous mes clients. Et c'est pour ça que le développement, encore une fois, il a été rapide. Hein. Tu vois, on fait un premier bilan court hein, sur seulement 6 mois, où on fait un peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et dès la première année complète, on fait environ 1,5 million, l'année suivante 2,5 millions, l'année d'après 3,5 millions, et l'année d'après, on frôle les 4 millions. Donc du coup, ça a été une croissance assez rapide, avec du coup l'usine qui a également connu une croissance, toutes les fonctions support, les fonctions commerciales, et à la fin, il y avait plus d'une trentaine de personnes dans la boîte. Je dis la fin, parce que du coup, c'est une boîte qu'on a dû fermer en 2019. Donc, c'est vrai que ça, du coup, c'est quelque chose dont je peux parler, parce que c'est quand même intéressant, parce que c'est quand même en soi un bel échec. Et du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, avec du recul, j'arrive à en parler assez tranquillement et assez sereinement. Mais grosso modo, encore une fois, c'est cette course au chiffre d'affaires, cette course aux parts de marché, mêlée au fait d'avoir une usine qui est très, très gourmand en coût fixe. Tu vois, j'ai encore des exemples comme ça que je donne à chaque fois, mais tu vois, je me rappelle au moment de Noël, on avait des factures EDF à 15 000 euros par mois parce qu'en fait, il fallait absolument que l'usine soit toujours à 20 degrés. Bah, déjà, pour le confort des salariés, c'est un minimum, mais surtout qu'on avait aussi des machines qui, en dessous de 20 degrés, ne démarraient pas. Donc, il fallait absolument chauffer tout ça. et on devait sûrement s'y prendre mal pour que ça coûte aussi cher. Et du coup, à la fin, tu vois, c'était quand même hyper frustrant de faire autant de chiffres, d'avoir autant de clients, d'avoir un développement aussi rapide et sans créer de valeur. Parce qu'on avait les trois premiers bilans ont été tout juste à l'équilibre. Mais le dernier bilan, du coup, il a été en perte, avec quand même une perte quand même significative. Et du coup, avec tout ce que ça induit derrière, c'est-à-dire les pertes d'assurance Coface, du coup, les pertes de tes encours chez tes fournisseurs. Et nous, on était sur un métier qui est hyper gourmand en BFR, hyper gourmand en trésor, etc. Donc du coup, en perdant ses encours, en perdant ses assurances, et bah du coup, ça a été un effet domino hyper vicieux. Et la fin a été aussi rapide que douloureuse, quoi.
Ouais, c'est un projet du coup qui a duré 5 ans. Cette problématique d'usine, justement, est-ce que tu as su corriger ça sur les autres expériences ?
Alors, en fait, j'ai su corriger ça dans le sens où aujourd'hui, la marge et la renta, c'est mon objectif number one. C'est-à-dire aujourd'hui, le chiffre d'affaires, le développement commercial et la fame, c'est très bien. C'est toujours quand même quelque chose qu'on va rechercher, mais c'est loin derrière dans l'ordre des priorités, derrière la marge et la rentabilité et la croissance saine. Donc ça c'est le premier enjeu. Après, le deuxième enjeu, c'est que à ce jour, je n'ai jamais remonté une boîte qui demande la création d'un appareil productif. C'est quelque chose que j'ai toujours dans un coin de ma tête. C'est un jour une opportunité se représente. Je pense que je serais capable de la saisir. Et du coup, reformulant pas toutes les mêmes erreurs qu'on a pu faire maintenant, il y a 3-4 ans sur la piscine, quoi. Avec du coup des trop gros investissements, avec un BP mal maîtrisé et encore une fois surtout des marges vraiment mal maîtrisées, quoi.
Oui, et puis c'est normal au final sur une première expérience entrepreneuriale de faire des erreurs, de les enchaîner et de ne pas se rendre compte finalement quelles sont les priorités. Et au final, ça a été un super apprentissage pour toi pour la suite.
Complètement. Complètement. Et puis, tu sais, moi, après, je suis quelqu'un d'assez positif en soi. Et du coup, dans ce que je ressors de positif, notamment de la piscine, c'est que du coup, par exemple, ça m'a apporté trois belles opportunités qui ont été la création de trois boîtes qui sont Kimono, Capsule et Arok. Donc, Kimono, c'est sûr que c'est la boîte la plus connue, celle que tout le monde connaît. Et de base, quand Kimono se forme, si j'ai pas moi la piscine, cet appareil productif, et cette petite notoriété sur le milieu du textile, jamais The Family et Olivier surtout ne seraient venus me chercher. Donc du coup, tu vois, encore une fois, c'est une opportunité certes qui s'est mal terminée, mais qui m'en a apporté d'autres. Donc du coup, en vrai, je ne regrette rien aujourd'hui.
Ouais, toutes tes aventures sont très liées. Effectivement, on va en parler, que ce soit Arok, Capsule ou encore Kimono, effectivement, qui est sans doute le business le plus connu. Est-ce qu'on peut parler de justement Kimono qui est créé en février 2017 ? Est-ce que tu veux me parler un peu de comment, effectivement, à quel moment tu as été approché par Olivier et The Family ? Comment ça a été créé ? Puisque ça a été créé effectivement en collab avec The Family et plusieurs associés. Est-ce que tu veux me parler un peu des débuts de Kimono en 2017 ?
Ouais, pas de souci, je peux te redonner un peu la genèse. La genèse, elle commence fin 2016, où en fait, du coup, mon associé Olivier, qui est aujourd'hui CEO de Kimono, qui est également un sérieux entrepreneur, et à ce moment-là, en fait, il est sur la fin d'une aventure, d'une boîte où il est en train de revendre ses parts. Du coup, il cherche une nouvelle aventure. Et dans ce cadre-là, il va prendre un café avec Alice Zaguri, à l'époque et toujours aujourd'hui CEO de The Family. Et en fait, là, de fil en aiguille, ils discutent. Et en fait, Olivier lui raconte un peu ses précédentes expériences et notamment sa première expérience un peu entrepreneuriale qu'il a eue au lycée, où en fait, il avait créé le suite de promo de son lycée et où il avait géré tout le projet de A à Z, de la confection jusqu'à la vente et à la distribution de ses suites. Et là, en fait, c'est une anecdote sur laquelle Alice tique tout de suite et lui dit « Mais tu sais, mec, c'est incroyable. Moi, toutes mes boîtes, parce qu'ils avaient déjà au moins entre 200 et 300 boîtes en portefeuille à l'époque, elle dit « Mais toutes mes boîtes viennent me voir toutes les semaines pour me dire où est-ce qu'on peut faire des outfits. On ne trouve pas, il n'y a pas d'acteurs. » À l'époque, ils étaient souvent obligés d'aller acheter leur textile vierge en grandes enseignes, aller faire imprimer chez le marqueur du coin. Bref, il n'y a pas vraiment d'acteur qui prend ce marché, qui s'intéresse à ce marché des startups. Et encore une fois, si on remet un peu dans son contexte, on est à ce moment-là du coup en 2016. Et ça, c'est pas un must to have, même un nice to have, enfin un nice to have et un must to have comme on peut voir aujourd'hui grâce à Kimono notamment, à l'époque, à part des boîtes comme, tu vois, comme Save, où il y avait tous les salariés de Save qui étaient arborés d'un super suite avec une broderie, avec le logo, etc. Et son CEO qui était sur chaque plateau BFM, podcast et autres, avec son pull, à l'époque, pas grand monde faisait ça. Et là, du coup, en fait, tout de suite, Alice et Olivier, de cette idée, se disent, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Si t'es chaud, on monte une boîte ensemble. Parce qu'en fait, à l'époque, The Family faisait ça aussi. Avait son activité, on va dire, d'accélérateur, où ils prenaient des shares dans des boîtes qu'elles accompagnaient en very early. Mais également, elles cofondaient des boîtes. Il y avait Coup d'État, Lyon, Pathfinder, Les Cousins, etc. Et donc, du coup, de là venait l'idée de Kimono. Et là, Olivier réagit. Lui dit, tu sais, moi, j'ai le meilleur pote de mon frère qui est dans le textile. C'est un expert dans ce domaine. Il a sa propre usine. Parle-lui en lui et ça se trouve il sera chaud et nous on gagnera sûrement du temps. Donc là de là il m'envoie juste un texto en mode salut mec, est-ce que t'es toujours dans le textile? Moi je lui réponds bah oui, pourquoi? Et là il me dit est-ce que The Family tu connais? Je lui dis bah oui, ils sont dans les startups, enfin tu vois je connais mais vite fait quoi. Et il me dit bah si t'es chaud faut que je te parle d'un truc. Et voilà, et ça c'est le texto en mode ultra teasing qu'il m'envoie. Et bien sûr après il me répond pas pendant 3 heures, ça c'est sa spécialité. Il m'appelle le soir et il me raconte du coup ce que je viens de te dire. Et moi, évidemment, tout de suite, je lui dis, bah franchement, ça a l'air dantesque. Je suis bouillant. On en parle quand tu veux. Là, à ce moment-là, on est juste avant les vacances de Noël. On prévoit tous de se voir début janvier. On se voit. On se met tous d'accord sur le fait qu'on est tous bouillants pour le faire. Et on pose une date. On dit 1er mars, on lance Kimono. Et de là, en fait, encore une fois, ça a été l'illustration même de ce qu'il faut faire, selon moi, quand on veut lancer une boîte. C'est-à-dire, c'est aller à l'essentiel. On a créé le nom, le logo, une landing page, une première opération de com hyper simple, mais terriblement efficace, en mode grand lancement sur les réseaux sociaux, etc., avec ultra préparé des jours avant où chacun faisait réagir son premier cercle, son deuxième cercle, pour que la viralité soit au max. On lance le 1er mars et au bout d'une semaine, il y avait déjà 500 demandes de devis et c'était la folie. Et en fait, depuis ce jour-là, Kimono a toujours été en ultra forte croissance et ça ne s'est jamais arrêté, quoi.
Ouais, ok. Et effectivement, vous lancez ça avec la force de frappe de vos réseaux, mais aussi de The Family.
Forcément, qui nous a bien aidés, puisqu'ils nous, ouais, ils ont ouvert les portes de leur réseau, ils nous ont ouvert les portes de leur bureau au 25 rue du Petit Muscle, hein, qui sont assez mythiques. Donc, c'est vrai que pratiquement dès le premier jour, alors moi j'étais à Bordeaux, mais Olivier du coup travaillait dans les bureaux de The Family. Très vite, Olivier et Alice montent un showroom directement là-bas. Tous les rendez-vous peuvent se faire dans les bureaux de The Family. Donc forcément, ça nous a beaucoup aidé.
Comment ça se passe le fait de trouver les fringues, de les sourcer? J'imagine que c'est un modèle que tu connais bien. Est-ce que tu le dupliques, ouais, sur Kimono?
Complètement, en fait. C'est-à-dire que sur chaque verticale, à chaque fois qu'on lance un nouveau business là-dessus, on reste en fait avec cette même expertise et ce même métier, qui est de sourcer du textile, le faire marquer et du coup d'être ultra processé dans tout ce domaine. Parce que c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air simple, mais en réalité, il y a au moins une trentaine d'étapes entre le moment de la prise de demande de devis et la livraison du client. Et nous, en fait, c'est toutes ces étapes qu'on a marquées dans le marbre et qu'on maîtrise parfaitement, et qui fait qu'on arrive en fait à répliquer sur chaque verticale ce métier.
Ouais, ok. Et comment ça se passe justement pour où est-ce que vous trouvez le textile, ce genre de choses, enfin tu vois les différentes étapes et vos premiers clients, ça se passe sur quel timing?
On a nos partenaires en fait, nos partenaires fournisseurs textiles, dont le métier c'est de faire fabriquer des collections textiles, du coup c'est eux qui déterminent les coupes, les couleurs, les tailles, etc. Ce sont des gens du coup dont c'est le métier de faire fabriquer, principalement en Asie mais également ça peut être en Europe. Nous en fait notre métier du coup c'est de sourcer ces meilleurs partenaires, de nouer des relations avec eux, des relations du coup commercial, financière et même amical, parce que aujourd'hui plus que des fournisseurs c'est devenu de véritables partenaires et en fait c'est des partenaires en fait de longue date et en fait que l'on entretient. Aujourd'hui on n'est pas là pour dupliquer d'avoir 1 million de fournisseurs textiles, on en a quelques-uns avec qui on travaille très bien et avec qui on noue des relations très fortes.
Ouais, exactement, créer des vraies relations de confiance et pouvoir justement les déployer sur d'autres marques, sur d'autres business. Et d'ailleurs, du coup, on y arrive sur le fait que tu as aussi créé en 2019 Arahawk, qui est un bureau d'achat, sourcing, textile et accessoires externalisés. Est-ce que tu veux me parler de cet autre projet?
Ouais, donc ça, alors ça, c'est un projet où du coup, je suis actionnaire assez minoritaire. Mais du coup, en fait, bah, pour la petite histoire, du coup, mon cofondateur et CEO de Arahawk, bah, c'est Briac Legal. Et en fait, quand on était chez ImageCorp, moi, j'étais directeur commercial. Lui était le directeur des achats. On a adoré bosser ensemble. On est même devenus très bons potes. Et quand ça a été la fin pour nous deux de l'aventure ImageCorp pour se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, en fait, naturellement, je lui ai indiqué que moi, sur son projet de monter un bureau de sourcing, d'achat, bah, moi, j'étais hyper bouillant pour m'associer avec lui. Du coup, il m'a laissé des parts de la boîte. Et en fait, moi, ce que j'ai apporté pour Arahawk, bah, c'est plutôt en fait un carnet d'adresses et grosso modo des clients. Parce que du coup, après, le métier, c'est vraiment Briac, du coup, maintenant avec ses équipes qui le maîtrisent. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas une part opérationnelle vraiment énorme dans la société. Mon rôle, c'est plutôt de faire des passes dés de jolis clients avec pas mal de récurrence et pas mal de volume.
C'est ça, créer des connexions. En fait, au final, toutes ces aventures, c'est un peu une sorte de toile d'araignée avec plein de connexions et plein de business similaires.
Exactement. Et puis les sociétés qui peuvent également se font travailler entre elles et qui, en fait, qui sont assez complémentaires. Donc, en fait, c'était un peu ma vision tout de suite. C'était un peu d'essayer de monter une sorte d'écosystème qui cohabite et qui travaille main dans la main.
Avant de passer à Villa Maria, qui est le dernier projet, on n'a pas encore évoqué Kermesse et Capsule. Est-ce que tu peux me parler de ces deux autres projets?
Alors, du coup, dans l'ordre chronologique, le premier, ça a été Kermesse. En fait, alors Kermesse, du coup, en fait, c'est assez simple. Hein, pour vulgariser, c'est le kimono des étudiants. Parce que du coup, le monde étudiant, c'est également un énorme marché. Et pour la petite histoire, en fait, c'était la première boîte que j'avais montée à l'intérieur du groupe de Christophe Charles. Ça s'appelait School Touch. Et le métier de School Touch, en fait, c'était de créer de fabriquer du textile personnalisé pour les étudiants. Parce que moi, du coup, j'en sortais tout juste de l'école. Et ça, que quand on est en école de commerce, d'ingé, ou même en prépa, en LUT ou autre, bah, ça que tout au long de l'année, on a un t-shirt au week-end d'un thé, on a ses polos d'association, le sweat de promo. Il y a plein d'occasions de porter du textile personnalisé quand on est en école. Du coup, marché énorme. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que, de base avec Olivier, on a l'idée de monter un business, un kimono des étudiants, donc du coup qui va s'appeler Kermesse. Et là, en fait, pour la petite histoire, tout de suite, je fais le choix de rajouter dans le trio de cofondateurs un mec qui s'appelle Samuel. Et en fait, Samuel, il est plus jeune que moi, parce que moi je suis né en 88, lui il est né en 97, si je dis pas de bêtises. Et lui, très jeune, il avait monté pareil sa boîte, sa boîte dans le textile étudiant qui s'appelait Atelier Coton et qui, en fait, malgré son très jeune âge, cartonnait. Et je voyais que le mec, c'était une machine. On s'est très vite rencontrés en tant que concurrent, mais on a très vite accroché. Tu vois, on s'est vu, on s'est parlé un mardi. Le mercredi soir, on buvait des bières tous les deux à Bordeaux. Pas mal d'ailleurs, on est resté longtemps à discuter. On s'est tout de suite rendu compte qu'on pouvait être hyper complémentaires et qu'on avait un peu la même vision de ce business. Et en fait, très rapidement, Samuel lâche son projet et vient nous rejoindre pour que l'on monte Kermesse ensemble. Et donc, du coup, Kermesse, pareil, c'est également une belle aventure parce qu'on fait à plus d'un million d'euros dès la première année. Donc, on y va très vite, très fort. Encore une fois, on gagne du temps parce que toute la partie sourcing produit, process, etc.
Bah, oui, tout est déjà.
Toujours des synergies avec ce qu'on sait déjà faire. Et comme on est tous plutôt très bons sales, bah, du coup, on va très vite sur la recherche des premiers clients, sur la rétention et sur le maillage un peu du marché. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a monté Kermesse il y a maintenant 4 ans.
Très bien. Et du coup, Capsule.
Et Capsule, du coup, c'était un peu la dernière en date. Ça, c'est 2019. Du coup, ça, pareil, pour raconter un petit peu la genèse, avec du coup mon associé Sébastien, qui est CEO de Capsule. On est potes de promo d'école de commerce et on était tous les deux passionnés d'entrepreneuriat dès l'école. On en parlait beaucoup. Encore une fois, c'est une époque où l'entrepreneuriat, c'est pas non plus, c'est pas, ça n'a pas la hype d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de belles histoires, de levées de fonds et de couverture médiatique qu'il y avait, qui peut y avoir aujourd'hui. Et on s'était toujours dit qu'on monterait un business ensemble. Sauf qu'en fait, on n'a jamais trouvé tout de suite l'idée, etc. Et un jour, on se dit, c'est avant un mariage, on se dit, bah écoute, vas-y. Cette fois, on arrête d'en parler en pleine nuit, après plusieurs verres dans le gosier, on va dire. Dès la première coupe de champagne, on se pose tous les deux et on réfléchit. Et en fait, il s'avère que moi, j'avais du coup cette expertise textile. Et Seb, du coup, lui, avait une véritable expertise grandes enseignes, parce qu'il avait déjà monté une boîte dans la tech, mais également dans le milieu du textile, où du coup, il avait été amené à travailler avec de nombreuses grandes enseignes, GSA, GSS. Et du coup, on se dit, bah écoute, si on prend ton réseau, on prend mon métier, si on le mixe, eh ben on peut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est née Capsule. Et en fait, Capsule, son métier, c'est de créer des capsules, des collections de textiles, design, hein, t-shirts, sweats, mais ça peut aller également des accessoires, des tote bags, des casquettes, des bonnets, etc. Et du coup, que l'on va dédier uniquement aux grandes enseignes. C'est-à-dire qu'on va prendre zéro autre client, on va être 100% focus GSA, du coup, rayon textile, GSS mode, mais également retailers spécialisés type Fnac, Jiffy ou autres, que ce soit physique ou même pure player, La Redoute, Spartoo, Sarenza, VP, showroom privé. Et donc, on monte ça en 2019 et il s'avère qu'en fait, pareil, encore une fois, je pense qu'il y a toujours forcément un peu de chance, hein, mais par chance, ça cartonne dès la première année. Première année, on se tape le Covid quand même, mais qui pour nous a été une opportunité puisque les seuls qui restaient ouverts, c'est les grandes enseignes, donc nos clients, qui en plus se rendent compte que le sourcing Asie, bah, ça peut plus à terme être la seule optique. Donc du coup, une solution comme la nôtre, avec des circuits un peu plus courts, avec des quantités peut-être plus limitées, des délais moins longs, bah, ça pouvait être une belle opportunité. Et en fait, très vite, on signe, mais coup sur coup, c'est-à-dire que toutes les semaines, on ouvrait une nouvelle enseigne et on signe très vite Leclerc, Auchan, Carrefour, Cora, Casino, Kiabi, Célio, La Redoute, Spartoo, Sarenza. Enfin, bref, on signe très vite une trentaine d'enseignes dès la première année et ultra rentable et avec un joli chiffre d'affaires. Donc, okay. Tout de suite, ça nous permet d'embaucher. Et tu vois, aujourd'hui, Capsule, on est déjà à un deuxième bilan et on est une équipe de 10, du coup, à Bordeaux. Et pareil, c'est une aventure qui avance bien.
Très clair. Tu as parlé un peu de chance. Hein. C'est vrai qu'il y a un facteur chance, mais je pense qu'il y a beaucoup d'expérience, quand même d'expertise et aussi une forte capacité d'exécution qui fait clairement la diff, puisque là, au final, tout ce que tu m'as raconté, c'est créer des business avec des audiences très précises, très ciblées. Que ce soit effectivement les étudiants, les startups au départ, les entreprises en général, les grandes enseignes, tout est très, il y a de vraies stratégies derrière, donc c'est pas que de la chance, mais même si il y a forcément un petit facteur chance,
mais ça que je pense que le point commun que je peux avoir avec l'ensemble de mes associés, que ce soit Olivier, Seb ou Briac, mais c'est que pour le coup, tu vois, là dans un podcast, forcément on indique un peu tout ce qui marche, ce qui a réussi, mais c'est ça que pour en arriver là, on teste plein de trucs qui ne marchent pas. Mais pourquoi ? Parce que quand on a une idée, et du coup, on ne tergiverse pas 1000 ans, on le teste dès le lendemain. Et je pense, c'est ce qui fait un peu notre chance, c'est parce que même une opportunité qui va pas marcher, ça peut en apporter une autre et une autre et une autre. Et c'est à un moment donné, il y a forcément quelque chose qui marche.
Ouais, on parlera aussi des choses qui n'ont pas forcément marché et des moments difficiles dans la partie juste après. Mais avant d'en parler, j'aimerais quand même aborder ce projet qui est Villa Maria, qui est lancé en début 2021, donc assez récemment finalement, que j'ai suivi sur Instagram quand ça s'est déroulé. Donc je crois que c'est une collab entre plusieurs sociétés. Il n'y a pas que Kimono, il y a Cosa Vostra aussi, je crois. Qui font partie de ce projet. La baseline un peu de ce projet, c'est les plus beaux bureaux de Bordeaux, donc de France. Oui, exactement, international. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment vous est arrivée cette opportunité finalement de cette maison?
Encore une fois, ça, tu vois, Villamara, ça illustre très bien ce que je disais juste avant. Encore une fois, Villamara, c'est un mélange du coup de chance, mais du coup d'opportunités que l'on a su saisir assez vite. En fait, de base, nous, que ce soit du coup parce que Olivier, donc, du coup de Kimono, et Seb de Capsule, qui sont associés avec moi sur ce projet, nous on n'y est pas à la base. à la base, c'est la rencontre de plusieurs entrepreneurs, donc du coup des associés donc de Cosa Vostra et de Victoria Garden. Donc, du coup, Cosa Vostra, que tout le monde connaît, surtout par les podcasts, notamment Le Panier ou Génération Do It Yourself. Et du coup, de Victoria Garden, qui est une grosse boîte familiale dans l'immobilier à Bordeaux, avec la famille Ornière, qui s'associe en fait pour racheter cette bâtisse iconique de Bordeaux, qui est la Villa Maria, qui appartenait du coup à la mairie. La mairie qui a voulu du coup la mettre en vente. Et du coup, Cosa Vostra et Victoria Garden s'associent pour racheter cette bâtisse aux enchères et décident du coup de la réhabiliter pour en faire un espace de travail. Juste après le rachat, de par en fait la connexion entre Olivier et Mathieu Stéphanie, on arrive sur la pointe des pieds dans le projet. On échange du coup avec les associés et en fait très vite on décide de prendre une part dans ce projet parce que du coup Seb et moi notamment on est à Bordeaux. On a également tous nos salariés de Capsule, mais également toute la partie prod et kermesse qui est à Bordeaux pour Kimono. Et du coup, on décide assez vite, on se met très vite d'accord sur les conditions et on décide de mener cette aventure, du coup, à presque une dizaine d'entrepreneurs. Donc du coup, voilà, tout ça, c'était pendant le Covid. Hein, je me rappelle encore de faire ces calls. J'avais l'impression d'être un délinquant. Je sortais de chez moi dans la rue pour faire ces calls alors que le confinement avait éclaté depuis une semaine ou deux. Et du coup, ça a mis un peu de retard dans les travaux, mais on a pu du coup rentrer dans les lieux en juin dernier. Et aujourd'hui, c'est franchement le paradis, hein, parce que du coup, les bureaux, ils sont hyper cool, tous les salariés sont hyper contents. Il y a des espaces verts, donc tout le monde mange dehors, il y en a qui travaillent dehors, il y a une piscine, on est dans un quartier calme. Juste à côté, il y a un club de tennis et de paddle. Enfin, tu vois, tout est réuni pour que ça soit hyper agréable pour les salariés et aussi pour nous. C'est ça que j'ai oublié de le mentionner, mais donc du coup, tous les associés, on a mis tous nos salariés bordelais dans ce coworking, ça fait à peu près une cinquantaine de personnes, mais comme il y avait également une centaine de places, du coup, on a également trouvé des coworkers, et donc du coup, là, c'est plusieurs boîtes, plus ou moins grandes, et des solopreneurs qui sont venus, on va dire, compléter les places restantes, et aujourd'hui, on cohabite comme ça, tous à la Villa Maria, avec beaucoup de plaisir.
Génial, trop bien, super projet. Et effectivement, ça change un peu des autres et c'est tout autant intéressant de participer à la création d'un lieu, quoi, finalement.
Complètement. Donc du coup, encore une fois, nous on s'estime hyper chanceux d'avoir pu participer à ce projet et d'en faire part.
Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en 2020, il y a eu quand même une certaine pandémie mondiale. Quel a été un peu l'impact de cette pandémie sur vos différents business?
Écoute, de base, assez anxieux, très 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 inquiet, puisque du coup, si je prends par exemple le premier exemple de Kimono, ça que du jour au lendemain, il n'y a plus du tout de commandes. C'est-à-dire aujourd'hui, le budget pour les outfits, le budget pour les événements, tous ces budgets un peu marketing, tout est gelé. Donc du coup, du jour au lendemain, on fait 0 € de chiffre d'affaires, donc ce qui est quand même assez problématique. Premièrement, encore une fois, on va encore parler de chance. Moi, je m'estime qu'on est chanceux de vivre dans un pays comme la France où tout a été mis en œuvre pour qu'on puisse tous s'en sortir, hein, avec le chômage partiel, les différentes aides mises en place par l'État. Donc ça a été la première brique. Mais ensuite, quand même, la deuxième brique qui a fait qu'on s'en est de base bien sorti et même avec du recul, très très bien sorti, c'est que du coup quand t'es dos au mur, en fait t'as pas vraiment le choix et il va falloir saisir des opportunités encore une fois pour aller sauver ta boîte et même continuer à se développer à ce moment-là. Donc là, nous, pour l'industrie du textile, l'opportunité, ça a été les masques, puisqu'en fait on, tout début du confinement, il n'y a pas de masque chirurgical, du coup en France, et du coup c'est toute l'industrie textile française qui se met en branle pour prendre le relais. Et nous qui avions ce réseau-là, on a pu tout de suite saisir cette opportunité parce qu'on avait le réseau de fabrication. Après, qu'on s'est reformé, hein, il y a beaucoup d'usines qu'on ne connaissait pas. Mais encore une fois, notre métier et notre agilité a fait qu'on s'est fait connaître très vite par ces gens-là. Et on avait les clients de l'autre qui étaient donc, du coup, les entreprises, les grandes enseignes. Donc là, c'est pour la partie capsule et du coup, toutes les administrations publiques. Et du coup, aujourd'hui, au début, ça nous a permis de combler le trou. Et en fait, surtout de faire également de la croissance jusqu'à début juin où l'activité a repris. Et du coup, encore une fois, avec du recul, niveau chiffres, bah, ça s'est hyper bien passé pour nous. Et en fait, même niveau mindset, ça nous, du coup, même si on était quand même dans une période où on était déjà en train de d'hyper-structurer l'ensemble des boîtes, bah en fait, ça nous a forcé à aller encore plus vite vers la structuration, que ce soit des équipes financières, les marges, le contrôle de gestion, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est des bases solides qu'on avait commencé à créer avant, mais qu'on a accentué pendant le Covid et du coup, qu'on développe encore maintenant. Donc, si tu nous demandes à nous, d'un point de vue business, bien entendu, le Covid, cette période confinement Covid, c'est un bon souvenir et c'est un beau milestone pour nos sociétés.
Ouais, t'es pas le premier à me dire ça, hein. T'inquiète pas, n'aie pas peur de dire que ça a été plus positif que négatif. Je pense que, en tout cas, dans les derniers entrepreneurs que j'ai reçus, la majorité, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, ça leur a permis de mieux se baquer pour de prochaines crises et même plus structurer leur business, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a... Il y a eu aussi un côté positif sur pas mal de business, heureusement d'ailleurs. Donc c'est très intéressant. On va pouvoir passer un peu à la partie bilan de ces aventures. Et la première question que je pose, c'est quel a été un peu le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ?
Bah, du coup, ça, pour s'en faire un peu de redite, mais c'est vrai que ça a été la fermeture de la piscine. Parce que du coup, bah, je vais même rentrer dans le détail, comme ça au moins ça donnera un peu de plomb dans l'aile à ceux qui seraient presque dans cette même situation. Mais encore une fois, je cherche pas à m'auto-plaindre puisque encore une fois, on a que ce qu'on mérite, hein. Quand on est entrepreneur, bah, les belles victoires, bah, du coup, on peut se les auto-fêter et se dire qu'on le mérite. Mais du coup, quand on se prend un bel échec dans la gueule, bah, du coup, pareil, c'est sa faute. Donc, du coup, bah, la fermeture de la piscine, c'est tout ce que ça implique, hein. C'est-à-dire, c'est que tu dois de l'argent aux gens. Donc, ça met comme une certaine tension. Tu dois de l'argent, par exemple, à l'État avec des organismes comme l'URSSAF ou la TVA, etc. Donc, du coup, c'est des courriers quasi hebdomadaires que tu reçois à la maison avec la petite Marianne en haut à gauche. Donc, ça, c'est des choses qui mettent quand même pas mal d'angoisse. C'est des huissiers qui t'amènent des papelards, pareil, une fois par semaine, c'est pas non plus agréable. Du coup, c'est la fermeture de la boîte, bah, c'est licencier des salariés, donc pareil. Quand tu as des salariés, tu peux te sentir fier de donner du travail aux gens, mais quand tu leur enlèves, bah, tu te prends toute la culpabilité aussi dans la tronche, et ça, c'est hyper douloureux. Mais encore une fois, je vais pas me plaindre parce que c'était encore plus douloureux pour eux que pour moi, parce que moi, à la rigueur, je savais que j'allais me relever, mais pour eux, c'était peut-être plus difficile à ce moment-là. C'est aussi toute ta réputation que t'as mis des années à te construire sur un marché qui, d'un coup, s'ébranle. Tu passes de star à pas pestiféré, mais presque. Donc, du coup, c'est tous ces moments, en fait, qui ont été hyper difficiles, hyper douloureux. Et encore une fois, j'ai de la chance, tu vois, je parle encore de chance, mais j'ai de la chance d'être hyper bien entouré, déjà d'une par ma femme qui m'a jamais fait un seul reproche par rapport à tout ça. Et moi, c'est ça j'aime bien parce que du coup, pour le coup, j'aime pas les gens qui font preuve d'ingratitude. C'est que quand tout va bien, bah, c'est bien. Et moi, je veux pas de compliments, tout ça et tout, c'est normal. Et quand ça va pas, bah, du coup, je veux pas non plus qu'on me le jette en pleine gueule. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma femme à mes côtés à ce moment-là qui m'a vachement soutenu. J'ai eu de la chance d'avoir aussi mes amis, ma famille, etc., où personne ne m'a jamais fait ressentir que j'étais un moins que rien à ce moment-là. Donc quand même, ça permet de garder les pieds sur terre et de rebondir. Mais encore une fois, c'est 6 mois, 1 an, un peu brumeux, quoi. Tu vois, un peu hors du temps. Et moi, je pense que j'ai kiffé toutes les années de ma vie, sauf celle-ci, quoi. Donc, du coup, ça, c'était le moment le plus douloureux. Et c'est, voilà, c'est ce que je... Peut-être s'il y a juste un message à faire passer, c'est que encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pour moi, c'est la meilleure chose du monde. C'est le truc le plus cool. Il n'y a pas plus enthousiasmant, excitant, exaltant, tout ce que tu veux. Mais bah, ça, pour moi, ça reste un jeu. Mais par contre, encore une fois, quand on perd, bah, là, tu ne peux pas faire reset, quoi. Il faut en assumer les conséquences et se prendre tout ce que je viens de te dire. Et tu vois, même encore maintenant, hein, ça fait 3 ans, aujourd'hui, je rembourse encore certaines choses. Tu vois, c'est des prêts que tu as pris à la banque ou tu t'es mis caution personnelle. Bah, du coup, maintenant, il faut le rembourser. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Ce n'est pas anodin. Il faut l'avoir en tête. Et aujourd'hui, moi, je suis très serein et je n'ai aucun problème avec ça. Tu vois, il y a même certaines dettes que j'avais qu'après une liquidation judiciaire, je ne suis pas obligé de rembourser et que j'ai quand même remboursé par devoir, on va dire, moral. Mais du coup, tu vois, c'est encore une fois, c'est pas anodin. Et voilà, pour répondre à ta question, c'est ce moment qui a été le plus douloureux pour moi, quoi.
Oui, puisqu'il y a l'échec, mais il y a tout ce qui gravite autour.
Exactement.
Et c'est clair que dans les moments difficiles, bah, l'entourage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important.
Exactement.
Et c'est ce qui va te permettre, ça va être un vrai change maker sur comment tu vas vivre ces différents moments difficiles, quoi. Donc, parce qu'effectivement, quand tout fonctionne, quand tout marche, quand t'es full réussite, tout se passe parfaitement. Mais quand t'es dans le dur, bah, c'est là que tu vois l'importance de l'entourage.
Encore une fois, la chance d'être bien entouré, et puis tu vois, je m'en ai pas parlé, mais également bien entouré par mes deux associés, tu vois, Olivier, avec qui on avait déjà monté Kimono, qui pareil m'a jamais, m'a hyper vachement soutenu à ce moment-là, et a continué de me faire confiance. Et du coup, Seb, avec qui du coup, sur les cendres de la piscine, on était en train de créer Capsule ensemble, et pareil, ça a jamais été remis en cause à ce niveau-là. Et du coup, encore une fois, j'ai eu vachement de chance d'avoir un entourage conséquent et solide, quoi.
Ouais, de toute façon, la base de toutes ces aventures, c'est un fit humain, quoi. C'est vraiment la base, le socle de tout. Ma deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pratiquement en fait, atteint le degré de liberté que je m'étais fixé. Que moi, en fait... quand on entreprend, on a chacun, on va dire, un but ultime. Je pense que c'est important quand même d'avoir une valeur qui est au top de la pyramide. Et moi, le mien, c'est la liberté. Donc, encore une fois, la liberté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment de pouvoir faire ce que je veux. J'ai quand même encore des devoirs et il faut le faire. J'ai des devoirs envers mes associés, envers mes salariés, envers tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment d'être totalement libre, d'être totalement libre financièrement, de pouvoir vivre comme je le veux, de pouvoir monter des projets, de pouvoir avoir des banques qui me suivent dans mes projets perso et pro. Et ça, aujourd'hui, c'est l'une des choses desquelles je suis plus fier. Après, bien sûr, aujourd'hui, je pourrais dire je suis très fier d'avoir monté des grosses boîtes comme Kimono, comme Capsule ou quoi. Mais... ça, c'est plutôt une fierté, on va dire, assez collective, puisque, encore une fois, sans mes associés, je n'en aurais pas fait la moitié de tout ça. Et puis, bien sûr, sans les équipes qui, aujourd'hui, font tout le boulot, opérationnellement parlant, qui sont tous plus talentueux les uns que les autres. Donc, en vrai, ça, j'en retire aucune fierté particulière. Je prends ça presque comme de la normalité, mais ma fierté au niveau personnel, c'est quand même ça, c'est ce degré de liberté que j'ai pu atteindre, quoi.
Quels sont tes objectifs futurs d'un point de vue perso et d'un point de vue pro, notamment avec Kimono, etc., dans les prochains mois, les prochaines années ?
Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est en plus une question que je me pose assez régulièrement, parce que je fais quand même pas mal d'introspection sur tout ça. Au niveau perso, déjà, j'ai un premier objectif, c'est de devenir de plus en plus fort au paddle, qui est mon nouveau sport préféré.
Ah, j'aime bien aussi.
Je joue juste après tu vois, l'enregistrement de ce podcast avec mes potes Doctolio, super boîte bordelaise dans le no-code qui viennent jouer avec moi. Donc bon, ça c'est un peu pour la boutade, mais mes objectifs, on va dire, pro, c'est encore un peu flou, parce qu'en fait j'ai pas mal de projets que j'essaye en fait un peu de faire mûrir, mais j'ai pas encore quelque chose d'assez... pour moi, un projet, si tu n'arrives pas à le définir en une phrase, c'est qu'il n'est pas encore assez clair. Et j'en suis encore un peu à ce niveau-là où un peu, tu vois, j'itère, je fais beaucoup de choses, je prends beaucoup de temps pour parler avec beaucoup d'entrepreneurs, je fais de plus en plus de coaching et de mentoring parce que du coup, j'apprends beaucoup à parler avec des plus jeunes ou des moins jeunes entrepreneurs. Moi, ce que je sais, c'est que dans tous les cas, ma prochaine grande aventure, ce sera quelque chose autour des entrepreneurs. Aujourd'hui, plus que l'entrepreneuriat, ce qui me passionne, c'est les entrepreneurs. J'adore parler avec eux, j'adore ce qu'ils peuvent m'apporter, j'adore le fait de pouvoir leur apporter aussi quelque chose. Donc, je sais que ma prochaine aventure tournera autour de ça, mais c'est pas encore clair à 100%. Donc, okay. Pour l'instant, j'en dis pas plus.
On en parlera ensemble dans 2 ans, alors.
Ouais, exactement, on pourra se faire un catch-up avec plaisir.
Est-ce que tu peux me citer un peu des personnes qui t'inspirent aujourd'hui? Ça peut être des personnes que tu connais ou des personnes que tu ne connais pas forcément mais qui t'inspirent ces derniers temps.
Bah déjà, ça va pas être très original, mais bon, j'ai quand même envie de le dire, même si je sais même pas s'il écoutera ce podcast. Mais la première personne vraiment qui m'inspire beaucoup en entrepreneuriat, c'est mon associé Olivier. Alors ça va faire un peu démago de dire ça, mais tu vois en fait ce que j'admire en fait en lui, c'est tout ce que moi je ne serai jamais. C'est qu'en fait Olivier, c'est un, tu vois, c'est vraiment c'est l'essence même du CEO quoi. C'est le CEO visionnaire. Manager, leader, il est capable de t'emporter où tu veux. Tu vois, je peux raconter une anecdote qui est intéressante. Tu vois, tout à l'heure, j'ai un peu fait la fine bouche en répondant à ta question de comment ça s'est passé le Covid, etc. Ouais, on a sorti les gros muscles et on s'en est sorti avec les masques et tout ça, etc. Mais si je suis 100% honnête, moi, j'étais hyper inquiet pendant une semaine. Franchement, je me disais, mais là, je sais pas comment on va faire, quoi. Bah, s'il y a zéro business, je sais pas comment on va faire. Et Olivier, je l'avais 2 fois par jour au téléphone et il voulait même pas entendre parler d'inquiétude ou d'angoisse ou quoi. Et en fait, il est tellement fort là-dedans, il est tellement fort dans le fait, parce que il te dit même pas ça juste pour te le faire croire, c'est qu'il le croit tellement dur comme fer lui-même qu'à un moment donné, en fait, il arrive en fait à te convaincre que tout va bien se passer. Donc du coup, tu reprends confiance en toi, tu reprends du poil de la bête, etc. Et là pour le coup, tu retrousses les manches et tu te mets dedans. Et tu vois, j'ai vachement après œuvré sur cette partie-là, sur la vente notamment des masques du coup chez Kimono, etc. Mais s'il n'y avait pas eu Olivier de base pour me foutre un coup de pied au cul et me redonner du poil de la bête, me redonner bah, foi en l'avenir, foi en la vision, foi en tout ce que tu veux, et bah du coup. Peut-être qu'on n'en serait pas, hein, peut-être qu'on n'aurait pas réussi à s'en sortir à ce point. Et en fait, c'est tout ce que j'admire en fait chez lui, c'est de, tu vois, aujourd'hui Kimono, c'est une cinquantaine de personnes. Moi, je serais incapable de, tu vois, de faire ça, de manager une équipe de 50 personnes, parce que tu vois, chez Kimono, moi, je gère pas du tout cette partie-là. Moi, je suis normalement plutôt un mec de l'ombre, tu vois. Alors qu'Olivier, lui, il excelle dans tout ça, et c'est vrai que du coup, ça, c'est hyper inspirant pour moi là-dessus. Donc voilà. Pour répondre à ta question, mon entrepreneur préféré, c'est mon propre associé, c'est Olivier, quoi.
Ok, super. Ouais, c'est vrai que c'est important de bah, d'avoir quelqu'un qui puisse te remettre des coups de boost, un peu des coups de collier dans les moments difficiles, quoi. C'est très
Ouais, c'est
important.
ça. Et c'est en fait, c'est de voilà, c'est tout ce qui est voilà, tout, en fait, la vision, le leadership, toutes ces qualités-là que souvent, parfois, je lui envie.
Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement aussi dans le textile, tu vois, pourquoi pas donner des petits conseils là-dedans?
Alors déjà en fait, je vais pas donner le conseil bateau de bah si tu veux te lancer, lance-toi. C'est assez facile. Bah non, en fait le premier conseil que je lui donnerais, c'est que bah écoute, tu as une idée dans un secteur donné. Bah déjà en fait, premièrement, en fait, va parler à des gens, va parler aux gens de ce métier. Moi demain, imaginons j'ai envie de me lancer dans du business d'outillage. Bah déjà en fait, comme j'y connais rien, premièrement, je vais aller faire un tour chez Casto pour voir ce qui se vend. Ensuite, je vais même parler avec le chef de rayon, qui est sûrement un passionné de ça. Ensuite, je vais essayer d'aller parler à tous les artisans, tous les revendeurs, à tous les gens en fait qui gravitent sur ce marché, en fait, pour comprendre comment marche cet écosystème, quelles sont un peu toutes les parties prenantes. Et moi, à chaque fois que je lance un business, la première chose que je fais, c'est d'aller parler en fait à tous les gens de ce secteur pour comprendre comment fonctionne ce marché. Quel est un peu le mindset du persona des gens avec lesquels je vais traiter, mais que ce soit des futurs clients ou même juste des prescripteurs ou même juste des gens qui gravitent dans ce métier. Tu vois, demain, imaginons, on veut lancer le kimono du BTP. Bah, je vais aller parler à des gens qui sont spécialisés dans l'intérim sur le BTP parce que eux, ils connaissent ce marché, ils vont me donner un certain nombre de feedback ou quoi. Et donc, la première étape, c'est de comprendre ce marché. Pour comprendre un marché, bah, faut sortir de chez soi et faut aller parler aux gens qui gravitent dans ce marché-là pour aller prendre bah, tous leurs inputs qu'ils peuvent nous donner, quoi. Donc
Ouais.
le premier conseil, c'est d'aller parler aux gens et plus tu parleras de gens, plus tu deviendras expert.
Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent le marché, bah, notamment avec un des derniers podcasts avec Caroline Mignot, où elle me disait justement que sa méthode, elle, c'était à chaque fois qu'elle s'attaquait à un sujet, c'était auditer à mort, auditer, auditer, auditer,
Grave.
et devenir vraiment expert, experte du sujet. pour justement créer un projet sur ce sujet, quoi. Et c'est clair que c'est la clé, en fait. Hein. Enfin, il n'y a pas de secret de sauce magique, tu vois.
Exactement. Tu vois, moi, les mecs, ils disent, de toute façon, moi, je suis un putain de sales, je pourrais vendre n'importe quoi. Et ça, en fait, bon, OK, il y a peut-être un fond de vrai. Mais en vrai, si tu es un... Moi, tu vois, par exemple, j'estime que je suis un bon sales, du coup, sur mon secteur du textile. Mais en fait, premièrement, je ne pense pas être un bon sales sur mon marché parce que je suis un bon sales, mais parce que je connais parfaitement ce marché du textile. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Je suis un vrai expert sur ce marché-là. Et c'est parce que je suis expert sur ce marché-là que je sais bien le vendre avant d'être un bon vendeur, tu vois. Être un bon vendeur, c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire. La première marche à franchir, c'est les connaissances, et il faut être curieux pour ça. Et donc, pour être curieux, il faut aller s'intéresser, quoi.
Yes. Et un conseil sur justement le fait de créer une boîte dans le textile, que ce soit une marque de fringues, ce genre de choses, est-ce que tu...
Déjà, peut-être de m'appeler. Comme ça, au moins, déjà, tu vois, tu fais la première étape. C'est que tu pourras faire d'une pierre deux coups. C'est que déjà, moi, je te donnerai beaucoup de conseils sur ce marché-là, justement. Je pourrais répondre à toutes les questions. Et du coup, tu mettras la première pierre à cet édifice de tes connaissances sur ce marché. Puis en plus, après, si tu cherches un prestataire, du coup, pas de souci, on est là pour toi. Donc en fait, encore une fois, tu vois, c'est ça. Si tu veux monter une boîte dans le textile, va parler avec toutes les gens qui gravitent autour de ce monde-là. Que ce soit la partie fournisseur, prestataire, marqueur, revendeur, marque, distributeur, la panoplie, elle est énorme.
Très clair. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec des petites questions rapides. À chaque fois, tu as quand même le temps d'y répondre. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Alors moi, le livre que je conseillerais, c'est un livre qui s'appelle « La 25e heure » et qui est un livre en fait sur la productivité qui apporte beaucoup de tips. Parce qu'en fait, ils sont partis en fait la baseline du livre, c'est qu'ils sont allés en fait discuter avec 50 top entrepreneurs qui eux-mêmes en fait ont donné tous leurs hacks, tous leurs tips, tous leurs conseils d'organisation et de productivité, et ils ont condensé tout ça dans un livre hyper bien écrit, hyper simple à lire, hyper vulgarisé et très concret. Tu vois, c'est pas que de la psychologie ou quoi, c'est hyper concret. Donc ça, on va dire, c'est le premier livre que je conseillerais. Et après, dans un deuxième livre que j'ai adoré, c'est l'art de la victoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Déjà parce que Nike, c'est une marque tellement iconique, hein, c'est ma marque préférée. Je peux acheter n'importe quoi tant qu'il y a Nike dessus, tellement j'aime cette marque. Et en plus, quand tu lis le bouquin, tu vois en fait toute la traversée du désert qu'il a eu en fait avant d'être le Nike que notre génération connaît. En fait, le Nike post Michael Jordan. Mais il faut savoir qu'avant, il a tellement galéré, et avec tous ces sujets de BFR qu'il a pu avoir, c'est que dès qu'il avait vendu une collection, il fallait qu'il aille ragasser auprès des banques pour avoir plus d'argent, pour acheter plus de stock. Et ça a été, c'est hyper inspirant, toute cette résilience qu'il a pu avoir avant de monter l'empire qu'on connaît, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que la résilience, c'est quelque chose d'important. Je pense que
tu vois, la résilience, c'est quelque chose que je n'ai pas, donc c'est pour ça qu'encore une fois je suis très admiratif de ces gens-là qui dédient leur vie à un projet mais pour en faire quelque chose de très gros.
Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
Une série, écoutez, là je viens juste de finir We Crashed qui est sur Apple
ouais,
TV Plus.
Apple TV, ouais.
Du coup, la série avec Jared Leto dans le rôle de l'ancien CEO de WeWork, et c'est incroyable. Et tu vois, je me rendais compte que je connaissais quand même assez peu l'histoire de ce type-là, et même de l'histoire de WeWork, et j'ai surkiffé, quoi. Et Jared Leto, il est incroyable. Et quand après j'ai regardé plein de vidéos de Neumann, du coup l'ancien CEO de WeWork, et franchement dans les mimiques, dans la voix, dans la posture, dans la façon de parler, c'est la même, et c'est hyper cool.
Ok, bon, on me l'a déjà conseillé et je n'ai pas encore sauté le pas, mais il faut que je le fasse. J'ai un abonnement en plus, c'est le pire. Il y a tellement de trucs à regarder que c'est terrible.
Ouais, mais c'est assez rapide, parce que je crois qu'il y a 8 épisodes et c'est vraiment cool.
Ok, nice, bon, je me le note. C'est quoi ta musique du moment, ce que tu écoutes vraiment à fond là en ce moment? C'est quoi même,
en ce moment, une musique en particulier? Je ne mets que des sélections de rap US, très années 90. Tu vois, voilà, moi je suis assez classique, hein, Biggie Smalls, Tupac, Dr. Dre, etc. C'est ma cam.
Excellent. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle pour le kiff?
Je pense que je rachèterais Payfit. Pourtant, je ne suis pas passionné par ce marché, mais en fait, je trouve que c'est... en fait, tellement une belle boîte dans le sens où j'ai connu l'entrepreneuriat avant Payfit et l'entrepreneuriat après Payfit. Et c'est l'un des plus gros game change dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, je trouve que leur valo, elle est pas volée. C'est l'outil est parfait. Ils sont, enfin, voilà, c'est une super belle boîte. Et si je devais en racheter une, et sans limite, du coup, ce serait celle-là.
Une très belle réussite française.
Incroyable.
Qui a notamment démarré auprès de The Family aussi. Hein.
Ah, exactement.
Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Tu vois, moi, une boîte que j'adore, qui est dans le textile, du coup, qui s'appelle Asphalt. Et du coup, dont le CEO est William, du coup, qui est un super pote à Bordeaux. Et où, en fait, il a complètement quand même... Alors, il a quand même réinventé, en fait, un modèle qui... forcément existait, hein, qui est le modèle de l'après-co, mais que personne ne faisait, et où il a été au début l'un des seuls à croire, maintenant il est copié par tout le monde, mais aujourd'hui, en fait, il a tellement une belle marque, tellement des beaux produits, et une super belle croissance, avec des équipes de ouf, etc. Je trouve que c'est pareil, une histoire hyper inspirante, et en plus, William, il est hyper cool, et je peux que te le conseiller.
Mais vous êtes tous à Bordeaux, en fait.
Bordeaux, c'est la nouvelle mafia, hein, t'inquiète.
En plus, j'ai acheté un t-shirt à Asphalt il y a quelques mois, et ouais. Je m'en suis rendu compte après que c'était français, etc. Et tout,
j'en ai deux, ils tiennent très bien, donc ouais, t'as fait un très bon achat.
Oui, bah écoute, je pense que ça sera carrément dans ma to-do list future. Donc je reviendrai vers toi pour le contact. Et puis la dernière question dans Serial Entrepreneur, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Déjà, en fait, moi, j'aime bien, en fait, de revenir un peu à cette définition qui est que l'entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un déjà qui prend des risques. C'est quelqu'un qui a un rapport à la peur qui est différent des autres. Mais tu vois, en fait, c'est marrant quand je dis des autres, et c'est comme si, en fait, nous, les entrepreneurs, on était une caste à part. Mais en vrai, alors, ça peut paraître un peu arrogant, mais ce que je ne fais pas non plus, il n'y a aucune vision manichéenne, les salariés, c'est le mal, et les entrepreneurs, c'est le bien. Mais du coup, je pense que quand même, on est des gens intrinsèquement différents. Et du coup, on a un rapport à la peur et au risque qui est foncièrement à l'opposé. Et pour moi, la première définition pour moi d'un entrepreneur, c'est quelqu'un voilà qui sait prendre des risques, qui a un rapport à la peur qui est hyper différent et hyper minimisé. Et du coup, c'est pour ça qu'il se lance, en fait. Après, bien sûr, un entrepreneur, c'est également du coup un créateur, c'est beaucoup de choses, etc. Mais en premier lieu, c'est un être libre qui n'a pas peur de prendre des risques.
Merci beaucoup Hugo pour cet échange, j'ai trouvé ça très cool, j'espère que ça t'a plu.
Merci à toi, j'ai vachement kiffé l'exercice, je fais des podcasts là depuis peu de temps, j'avoue qu'au début j'étais mort de trouille à cette idée de prendre la parole et de parler comme ça devant des centaines voire des milliers de personnes qui vont écouter ce que je dis, et en fait je me rends compte que je prends vachement goût à ça, il y a presque un effet presque thérapeutique en fait à vider son sac, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, mine de rien, on est assez seul. Et en fait, toutes ces choses-là, en fait, on n'en parle jamais, puisque même si ma femme et moi, on est entrepreneurs tous les deux, on ne parle pas beaucoup boulot ensemble, tu vois, on parle plutôt de nos projets perso, etc. Moi, dans tous mes meilleurs potes, j'en ai pas beaucoup qui sont entrepreneurs. Donc, pareil, je ne parle jamais de ce que je fais aux gens. Donc, du coup, en fait, j'ai l'impression un peu de vider mon sac et ça fait pas mal de bien. Donc, et en plus, si au passage, ça peut apporter un peu de valeur aux gens, bah, c'est avec plaisir. C'est très cool.
On fait très souvent le parallèle des podcasts avec une sorte de psychothérapie un peu. Et ouais, c'est vrai que le parallèle est très... Parce que finalement, on retrace tout le parcours de l'entrepreneur, toutes ses aventures, ses moments plutôt cool, ses moments difficiles. Ouais. Et c'est vrai que ça permet de faire un résumé, un bilan, tu vois, de tout ce qui s'est passé et de faire une sorte de point d'étape à date d'aujourd'hui. Et puis potentiellement, bah, quand tu réécouteras ça dans quelques années, tu te diras ah oui, ok, c'est passé
ouais,
pas mal de choses
ouais.
Quand même. Donc merci beaucoup Hugo, et puis à bientôt sur tes réseaux et puis sur Serial Entrepreneur.